des besoins qui m'expliquent. Pas seulement pour moi, pour les familles, pour les enfants.
Un ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès dit sa surprise au micro d'Europe 1 après l'annonce de son arrestation et une certaine forme de soulagement pour pouvoir comprendre.
Oui, mais le problème, c'est que l'homme interpellé hier en Écosse est-il réellement celui qu'on soupçonne d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes ? Témoignage du voisin de cet homme arrêté à Glasgow.
Ça fait 30 ans qu'on se connaît. On était à son mariage en Écosse. C'est aberrant.
Dans l'actualité, la droite en déroute aux européennes se cherche un nouveau leader. Top départ ce soir de l'élection pour la présidence des Républicains. Les militants veulent y croire. Et puis, le journal des sports avec la France a une victoire de la qualification pour l'Euro 2020 grâce à son succès 1-0 hier en Islande.
Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.
Xavier Dupont de Ligonnès. Mais qui pensait retrouver cet homme et le retrouver vivant ? Après 8 années d'énigmes, c'est peut-être la fin d'une affaire criminelle hors norme. La femme et les 4 enfants de cet homme découverts morts au printemps 2011 à Nantes. Un homme a été arrêté hier à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Ses empreintes digitales correspondent à celles du père de famille.
En direct avec nous, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Chloé, bonjour. Chloé, comment est-on arrivé à cette arrestation de Glasgow hier ?
Eh bien, comme souvent depuis le début de cette cavale, c'est un renseignement humain qui a déclenché les vérifications, un tuyau des policiers écossais obtenu grâce à une dénonciation. Immédiatement, ces derniers ont transmis l'information à leurs homologues français et la coopération a porté ses fruits. Mais hier, les policiers français n'ont pas eu le temps d'arrêter le suspect au terminal 2D de Roissy, alors qu'il s'apprêtait à monter dans un vol d'une compagnie low cost pour Glasgow. Ils ont donc transmis la fiche de recherche aux Écossais qui l'ont cueilli à son arrivée à Glasgow, aux alentours de 14h30 local. Les empreintes digitales, vous l'avez dit, correspondent, mais pas le physique. Le, entre guillemets, nouveau Dupont de Ligonnès a une apparence totalement différente et il faudra donc attendre le résultat des tests ADN dans les heures qui vont passer pour confirmer à 100% son identité, puisqu'on le sait, il ne voyageait pas sous son nom, mais sous l'identité d'un certain Guy Joao, domicilié en France, à Limay, dans les Yvelines, un homme dont le passeport a été déclaré volé en 2014. Et là encore, c'est très troublant. Et les policiers ont perquisitionné dès cette nuit au domicile qui correspond à cette identité pour tenter de trouver des éléments susceptibles d'éclairer cette incroyable arrestation après 8 ans d'enquête et plusieurs fausses pistes.
À Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1, Anaïs Cordoba, notre correspondante en Grande-Bretagne, nous disait tout à l'heure que les analyses ADN peuvent prendre une dizaine d'heures pour que nous obtenions le résultat. Vous parliez, Chloé, de Guy Joao et de cette perquisition cette nuit à son domicile de Limay dans les Yvelines. C'est là qu'on vous retrouve, Jean-Gabriel Bourgeois. Vous êtes en direct pour Europe 1.
Effectivement, je me trouve dans ce quartier pavillonnaire de Limay, devant cette grande maison en pierre apparente. Les volets blancs sont fermés, tout comme le portail. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette. Et ce matin, alors qu'une voiture de police est toujours présente devant la maison, les premiers voisins qui se réveillent sont étonnés, comme Victor ou Jean-Daniel, qui vivent juste en face.
La personne, on la voyait très peu. C'était, moi je pense, des voisins discrets.
On ne connaissait pas personnellement, on se côtoyait pas tous les jours. Enfin, ça ressemble pas du tout à la personne qu'on a vue hier à la télé en fait.
Ce voisin discret, c'est Guy Joao, un retraité de chez Renault. J'ai pu parler cette nuit avec un autre de ses voisins qui le connaît très bien. Il s'appelle Jacques.
Ça fait 30 ans qu'on se connaît. On était à son mariage en Écosse. C'est aberrant.
Ils ont pris l'ADN là. Et donc ils vont avoir apparemment assez rapidement les résultats. Là, ils vont s'apercevoir de la boulette, c'est pas possible.
Avec sa femme Martine, Jacques m'a raconté que leur voisin Guy a toujours vécu ici, d'abord avec sa mère avant son décès il y a 5-6 ans, et puis Guy a rencontré une Écossaise avec qui il s'est marié il y a 2 ans. C'est pour cela que le jeune couple de retraités faisait régulièrement des allers-retours en Écosse.
Jean-Gabriel Bourgeois en direct de Limay dans les Yvelines pour Europe 1.
Et donc vous l'avez parfaitement compris, nous sommes ce matin en plein questionnement, vous comme nous, s'il s'agit bien de Xavier Dupont de Ligonnès, comme semble le prouver les empreintes digitales relevé sur l'homme arrêté en Écosse. C'est une très très grosse surprise, y compris pour ceux qui le connaissaient personnellement.
À l'image de Bruno de Stabenrath, lui et Xavier Dupont de Ligonnès se sont rencontrés au collège Saint-Exupéry en 1976. Et il a toujours été persuadé que son ancien camarade était vivant. C'est ce qu'il a raconté à Johanna Chabas.
Je savais qu'il était vivant, quoi. J'en étais sûr. Je suis soulagé parce qu'on a besoin de savoir pourquoi un garçon qui a priori était bien né, qui avait toutes les qualités nécessaires pour réussir sa vie, en est arrivé à commettre ses crimes, quoi, tuer son épouse et ses 4 enfants, ce qui est horrible. Je pense qu'avant de savoir sa cavale, c'est de comprendre comment il a dérivé pendant la dernière décennie, quoi, à partir des années 2000, comment il a dérivé. Et puis ce qui va être intéressant aussi, c'est de savoir comment il a organisé sa fuite. Et à mon avis, je pense qu'il va parler parce qu'il va comprendre qu'il a tué, qu'il a fait des crimes horribles, quoi. Donc il va assumer tout ce qu'il a fait, quoi, jusqu'au bout. Donc ça, j'ai besoin qu'il m'explique. Pas seulement pour moi, pour les familles, pour la justice, pour les enfants. Parce que eux n'avaient pas eu droit à la vérité. C'était des super gamins, donc moi, je les ai jamais oubliés, quoi. Et je me suis dit, il faudra leur rendre justice un jour. Ben voilà, on y arrive.
Bruno de Staben, adjoint pour Europe 1, par Johanna Chabas.
Et vous pouvez retrouver tous les témoignages entendus ce matin sur l'antenne d'Europe 1, sur cette affaire Dupont de Ligonnès, ces témoignages sur le site Europe1.fr.
Une manifestation cet après-midi à Rouen à 15h, deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. Manifestation à l'appel de plusieurs syndicats, associations et partis pour obtenir plus d'informations sur le plan sanitaire.
La suite de ce journal. Dans un court instant, nous parlons de l'élection pour la présidence des Républicains. Ça commence aujourd'hui, ça se termine demain soir. Le vote est électronique et les militants rêvent d'un possible rebond de leur parti.
8h06 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, le 6-9. Europe 1.
Reprise de l'information avec François Geffrier et Bernard Poiretz.
François, c'est très officiellement à 20h, tout à l'heure, que commence le vote électronique pour la présidence du Parti des Républicains.
Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, voilà pour les candidats. Quant aux électeurs, les militants du parti, ils espèrent surtout que le futur patron pourra sauver ce qui peut l'être après la déroute des européennes, 8%. Aurélie Herbemont est allée à leur rencontre dans la plus grosse fédération du parti, celle des Alpes-Maritimes.
On a perdu la bataille, mais on ne perdra pas la guerre.
Camille est optimiste pour l'avenir de son parti, même si ce n'est pas une bataille qu'a perdu LR. Il y a eu les européennes, la débâcle de 2017, la défaite de 2012, le tout entrecoupé de guéguerres internes et de défections. Bref, 7 ans de malheur. Le futur président devra remotiver les troupes car certains militants sont franchement déprimés.
C'est une catastrophe.
Mais alors qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous releviez?
Je ne sais pas.
Le parti, je le vois très mal parti.
Le parti est moribond.
Vous ne croyez pas que parmi les trois candidats, il y a le sauveur de la droite?
Je n'y crois pas.
Le sauveur, quel grand mot.
Jean a une mission pour son futur patron qui l'empêche de nouveaux départs.
Secouer un petit peu le cocotier, ramener les gens à la raison, à savoir qu'en fait, nul besoin de regarder à l'extrême droite ou Macron. On a une âme, il faut fortifier cette âme.
Fortifier LR pour mettre le cap sur 2022.
Espérons qu'il y ait quelqu'un qui puisse battre Macron. C'est notre but dans les LR, c'est battre Macron.
Retrouver le chemin de l'Elysée, c'est la seule chose qui anime les militants. Le Canet, Aurélie Herbemont, Europe 1.
Et dans 10 minutes sur Europe 1, l'invité de la rédaction, Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat.
On l'a appris hier soir, la mise en examen de Thierry Soler, député ancien du parti Les Républicains. Aujourd'hui, il est à La République En Marche. Ses activités de conseil dans le privé sont considérées comme suspectes par les juges qui soupçonnent de la fraude fiscale, du détournement de fonds publics et du trafic d'influence passif.
Et terminons ce journal sur une note plus légère et même carrément enfantine, avec ce conte du 19e siècle qui est devenu un célèbre dessin animé de Walt Disney.
Et ce, sans compter les nombreuses adaptations au théâtre et à la télévision. Et désormais, Pinocchio devient un spectacle musical qui est à l'affiche du Théâtre de Paris à partir de ce soir. Pour Europe 1, Thierry Geffrotin a assisté le Bénard à la toute dernière répétition.
L'histoire commence comme tous les contes de fées. Il était une fois...
Il était une fois un morceau de bois. Ainsi commence l'histoire de Pinocchio, ou plutôt, comme le dit avec l'accent italien le directeur du cirque,
Pinocchio.
L'histoire de Pinocchio qui devient donc un spectacle musical.
Moi, je suis moi, je suis l'enfant roi, je suis tout en bois, ici bien comme ça.
L'histoire, vous la connaissez, évidemment. Ah, vous avez peut-être oublié les détails. Guillaume Bouchède, le metteur en scène, va vous rafraîchir la mémoire.
C'est un espèce de parcours initiatique, c'est-à-dire qu'il va rencontrer toute une galerie de personnages. Alors il va rencontrer effectivement dans la forêt un renard et un chat qui vont essayer de le détourner du droit chemin. Ils vont d'ailleurs y arriver. Derrière, il va être engagé dans un cirque pour faire le pantin. Il va voler des bonbons à la marchande, la police va le poursuivre. Puis ensuite, il va essayer d'aller retrouver son père Geppetto, malheureusement avalé par la baleine.
On a même la baleine.
On a même la baleine.
Pinocchio, c'est un vrai spectacle familial qui devrait plaire aux petits et aux plus grands qu'on appelle les parents.
Le cirque,
Thierry Geffrotin, voilà pour les représentations. Elles ont lieu le samedi à 14h et puis tous les jours pendant les vacances scolaires.
À 8h12, on s'intéresse au sport avec François Geffrier.
François, c'est vraiment une petite victoire, mais j'ai une victoire tout de même. Hier soir, les Bleus du foot n'ont pas fait mieux qu'un 0 contre l'Islande.
C'était certes à l'extérieur, en l'occurrence Reykjavik, capitale de ce pays de 320 000 habitants. Mais avec ça, l'équipe de France n'est plus qu'à une marche de la qualification pour l'Euro 2020. Le milieu de terrain Corentin Tolisso se défend d'avoir rendu avec ses coéquipiers un match mou.
Il a fallu aller à la bagarre et voilà, on l'a bien fait ce soir. Ça a été un match différent de nos deux précédents matchs au Stade de France, mais voilà, on savait que ça allait être comme ça, avec beaucoup de duels, beaucoup de jeux aériens, et il fallait répondre présent. On a répondu présent, on a réussi à gagner ce match très très important pour la qualification à l'Euro, donc c'est une bonne chose. Ça se présente bien, après voilà, c'est à nous de tout faire pour les bousculer et remporter ce match.
Voilà, Corentin Tolisso, je précise que le seul but français était sur pénalty, signé Olivier Giroud, son 37e but en équipe de France.
La suite, c'est lundi soir au Stade de France, la réception de la Turquie, pour ce qui ressemble à une sorte de finale dans ce groupe de qualification, puisque les deux équipes sont à égalité en tête de leur poule. Soirée spéciale bien sûr sur Europe 1. Lundi dès 20h. Et passons au rugby aussi, François. Vous avez le score d'un match, alors ça c'est quand même balèze, qui n'a pas encore eu lieu.
Eh oui, 0-0 pour Angleterre-France. Match prévu ce matin au Japon dans le cadre de la Coupe du Monde, mais annulé, vous le savez, en raison d'un typhon. Le score est donc officiellement nul et vierge, comme le veut le règlement. Les deux équipes empochent 2 points chacune. Ça ne change rien au classement. Angleterre première, France deuxième de la poule. Les deux nations étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Match annulé aussi entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, mais Irlande-Samoa est bien prévu aujourd'hui à 12h45.
Et puis nous suivrons aujourd'hui également cette tentative de record du monde sur le marathon.
Oui, les limites de la performance humaine vont être poussées au maximum. Un athlète kényan, Eliud Kipchoge, va tenter de passer sous les 2h à l'occasion du marathon de Vienne. En dessous de 2h, c'est possible selon Jean-Claude Perrin, le consultant athlétisme d'Europe.
Personnellement, je crois en cette tentative, même si de plus en plus on est proche de l'impossible. Il faudrait courir à la moyenne de 21 km/h, soit 2,50 au kilomètre. Ceux qui, demain, vont faire les 20 km de Paris, ils voient ce que ça représente comme exploit. C'est assez exceptionnel. On peut rapprocher ça des premiers aviateurs qui ont battu le mur du son. Au début du siècle, on a été champion olympique avec 2h55. Et maintenant, on a pratiquement gagné une heure. C'est prodigieux. Mais c'est propre à l'évolution de l'homme.
Jean-Claude Perrin, joint pour Europe 1 par Christophe Lamarre.
Et peut-être donc le marathon en moins de 2h cet après-midi à l'occasion du marathon de Vienne. Nous verrons bien. C'était le journal de 8h présenté par François Geffrier qui revient à 9h.